Que ce soit pour notre éclairage, la réalisation de nos tâches ménagères ou encore nos déplacements, la fée électricité, comme on l'appelait à ses débuts, est omniprésente.
Elle est devenue tellement incontournable dans nos sociétés que nous pouvons parler d'électrodépendance.
Gaz naturel, nucléaire, charbon, biomasse.
La production d'électricité est possible à partir de différentes énergies. Mais un problème se pose. La Belgique vient de s'engager à sortir progressivement du nucléaire à partir de 2015. Or, selon un rapport de SPF Économie, en 2010, plus de la moitié de la production nette d'électricité du pays était encore assurée par le nucléaire. L'arrêt progressif des 7 réacteurs belges doit donc être compensé par le renforcement des autres sources disponibles. Dès lors, certains organismes régionaux tels que l'APER, l'Association pour la promotion des énergies renouvelables, semblent opter pour la décentralisation de la gestion de l'énergie. La situation de monopole d'Electrabel sur le marché est un véritable problème. Michel Huard, secrétaire général de l'APER.
Le danger, il est là, c'est de mettre dans les mains d'une seule entreprise une grande capacité de production et donc lui donner la possibilité d'opérer un chantage sur les choix qui pourraient être faits. Et parce que ce n'est pas Electrabel, c'est GDSUS. Et donc, déjà, la prise de décision, elle n'est pas en Belgique, alors que la consommation, elle est ici en Belgique. Pouvoir et énergie sont intimement proches. Et il nous semble vraiment important de travailler pour que l'énergie soit décentralisée. Ça veut dire qu'on favorise une logique de prise de décision décentralisée aussi.
Énergie de réseau par excellence, l'électricité rend son utilisateur captif et le lie donc totalement au fournisseur, du moins à son distributeur. L'objectif se présente alors de façon claire, s'approprier localement la responsabilité de l'énergie pour mieux l'adapter aux besoins de chacun. Notons que 80% des consommations sont liées aux activités urbaines et que dans les campagnes, les industries sont très demandeuses. Dans cette optique, le renouvelable peut devenir une réponse. Vous aurez déjà pu apercevoir des initiatives se développer dans votre région, panneaux solaires dans votre quartier, centrales hydroélectriques alimentées par votre cours d'eau ou encore éoliennes se tenant à l'horizon. Reste à savoir comment démarrer toute entreprise locale.
Alors il y a différentes formules, soit on est acheteur d'énergie, soit on peut aussi être producteur, consommateur d'énergie. Et c'est un peu dans cette logique-là que la commune peut réfléchir à des manières pour saisir l'opportunité de développer une activité économique, d'assurer un service énergétique et sans devoir dépendre d'un approvisionnement extérieur. Et donc le rôle de la commune, c'est d'accompagner. La première chose à faire, c'est évidemment de faire un plan, d'identifier quelle est la ressource que l'on dispose et comment aider les entreprises et les habitants de la commune à l'apprivoiser ou à l'exploiter.
À cette fin, des projets sont mis en place. Le championnat des énergies renouvelables, lancé le 1er octobre dernier par l'APER, en fait partie. Il a pour but de conscientiser les communes sur leur politique énergétique et de mobiliser au mieux les citoyens. Pendant 5 mois, les participants volontaires devront faire état de leur politique énergétique et répondre aux lacunes éventuelles. Le vainqueur se verra attribuer un accompagnement juridique, des installations renouvelables ou encore des soutiens logistiques adaptés à son territoire. Rien de tel que de se rendre sur le terrain pour mesurer l'ampleur du projet. Notre enquête nous mène donc à Nivelles. La ville a en effet choisi de participer au concours. Comme pour la plupart des communes, un conseiller en énergie est chargé de superviser la participation au championnat. Thibaut Van de Velde explique son rôle.
La plupart maintenant des communes ont des conseillers en énergie qui s'occupent de l'efficience énergétique au niveau des bâtiments communaux et aussi de développer petit à petit des projets d'énergie renouvelable, donc soit mettre des panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, ou des projets éoliens citoyens qui sont plus compliqués à mettre en place, parce que là, il y a beaucoup de négociations.
Le projet permettra d'après lui d'assurer la cohésion locale de la gestion d'énergie entre élus et citoyens. Une occasion unique d'exposer aux habitants les actions menées par la commune.
Donc en fait, nous avons construit un nouveau bâtiment qui s'appelle la salle de sport, qui est située dans le village de Bollers. Donc là, une attention a été faite sur l'enveloppe du bâtiment, déjà pour économiser un maximum d'énergie. Donc là, sur ce bâtiment-là, on a placé des panneaux solaires photovoltaïques pour compenser notre consommation électrique. Et on a mis du solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, pour les sportifs qui viennent faire du volley, notamment.
La suite des opérations consistera pour Nivelles à envoyer une feuille de route complétée. Elle contiendra l'ensemble des actions sur les énergies renouvelables, mais aussi des rapports sur la mobilité ou encore sur la communication. Ce dossier sera ensuite analysé par les organisateurs afin de vérifier la véracité des informations. Les citoyens pourront également voter pour leur commune afin de lui ajouter des points. Cependant, nous craignons que l'impact de cette initiative sur le long terme soit à relativiser. Rappelons que l'inscription est facultative. De plus, un commentaire du responsable de communication du projet nous interpelle.
À moins d'un an des élections communales,
Thomas Wellrads.
En termes de communication, d'image de la commune, c'est aussi super intéressant parce que nous, c'est un championnat qu'on s'efforce de visibiliser dans la presse le plus possible aussi. Donc voilà, je pense que pour un responsable communal, c'est vraiment super intéressant en termes d'image également et en termes de prix.
L'intérêt personnel des élus pourrait l'emporter sur leur engagement réel dans le renouvelable. Les limites de ce projet sont évidentes. Il risque de s'essouffler sur le long terme. Et si certaines communes ne participent pas, il y a une raison. L'urbanisation trop importante. Voilà comment à Bruxelles, il est impossible de développer par exemple un système éolien ou un système hydroélectrique. Molenbeek-Saint-Jean ne déroge pas à la règle. Nicodème Lonfils, responsable énergie de la commune.
Donc ici au niveau de la commune, on ne s'est pas installé énormément d'énergie renouvelable en tant que producteur. Mais nous, on peut agir en tant que consommateur. Et donc dans ce cadre-là, la commune a décidé d'opter pour des contrats d'énergie 100% énergie verte pour tout ce qui est électricité. Donc ça permet à la commune en fait de soutenir la filière renouvelable via la création d'une demande suffisante.
Cette rencontre nous apprend l'existence d'un autre canevas pour inciter les localités au renouvelable. Cette fois-ci, l'idée n'est plus nationale mais internationale. La Convention des maires, c'est son nom, est une initiative européenne. Elle invite tous les signataires à atteindre, voire dépasser l'objectif de réduction de 20% des émissions de CO2 pour 2020. Molenbeek s'y engage et se donne ainsi des contraintes pour l'avenir. Contrairement au championnat des énergies renouvelables, ici, un suivi est assuré car les adhérents doivent envoyer tous les deux ans un compte rendu de leur progression. Sur le chemin de nos recherches, il aurait été improbable de passer à côté de l'intervention locale des entreprises privées. Ces dernières ont un grand rôle à jouer car elles ont beaucoup à offrir, tant en matière de savoir-faire que d'infrastructures. Une entreprise attire particulièrement notre attention. Il s'agit d'Eneco. Cette entreprise néerlandaise se distingue en proposant une énergie 100% renouvelable et produite localement. Le groupe a considérablement investi dans notre pays. Eneco génère déjà près de la moitié de l'électricité vendue en Belgique par l'intermédiaire d'éoliennes, de panneaux solaires et d'installations de biomasse. Le directeur d'Eneco Belgique, Christophe Degré, nous explique ce qui le différencie de ses concurrents.
Eneco croit qu'il y a de la place pour un joueur qui est verticalement intégré et qui fait le balancement entre la production décentralisée et la fourniture d'électricité. Ça, c'est unique dans le marché. Tous les autres challengers, tous les autres nouveaux entrants dans le marché de l'énergie, en Belgique depuis la libération 2002-2003, sont principalement des revendeurs d'électricité. Par exemple, l'Empiris, Nyon, Essent, n'ont pas investi des fortes sommes dans la production, surtout dans le portefeuille client et dans le développement d'un portefeuille client.
S'il nous parle d'intégration verticale, c'est que son entreprise se retrouve à tous les stades de production et de distribution. Un avantage dans la création d'un réseau indépendant, un réseau qui peut s'ajuster aux besoins des communes. La production décentralisée n'est optimale que si elle est multitechnologique. Alors, si un village a un potentiel éolien et solaire élevé, c'est dans ces secteurs que le groupe interviendra. Mais quels sont les partenariats possibles ?
Il y a un moyen d'être dans un mode coopératif. Imaginez-vous qu'une commune construise un grand toit solaire sur le hall des sports et tous les gens qui ont envie d'acheter une part de ce toit solaire vont avoir l'opportunité et vont recevoir des dividendes à côté de l'énergie verte qu'ils vont recevoir évidemment. À côté de ça, il y a un autre moyen, c'est de dire, bah, écoutez, moi j'aimerais bien pour tous mes habitants offrir une formule vraiment spéciale, je vais promouvoir cette formule et donc je veux un prix parce que moi en tant que bourgmestre ou en tant que commune, je vais faire la promotion de l'achat par exemple de panneaux solaires.
Des partenariats locaux durables avec des entreprises privées sont donc possibles et Eneco en est un exemple. Quant à savoir si ces partenariats restent équitables, rien ne nous l'assure. En tout cas, comme nous l'explique Jean-François Mitch, conseiller indépendant, la situation n'est pas toujours très juste.
Mais ces petites communes sont donc aussi des petites entités administratives avec des petites compétences publiques locales. Elles ont déjà tellement de charges qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas répondre à des enjeux industriels en phase 2 et qui essayent de dominer leurs compétences territoriales. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Vous avez un grand groupe industriel qui débarque dans une commune avec 4x4, dire à la commune qu'ils vont faire le développement durable et qu'ils vont soutenir un tout petit peu les finances communales, quelques milliers d'euros par éolien. Aujourd'hui, finalement, la petite commune est intéressée de ces quelques revenus. Elle doit s'occuper de rien, elle a un grand groupe industriel qui vient, ou de tout petits promoteurs, c'est la même chose, qui proposent un peu mieux, mais dont on ne connaît pas l'assise financière, ou qui n'ont pas été mis en concurrence.
Le problème viendrait donc pour les communes de charges qui les étouffent. Un encadrement reste nécessaire pour alléger ce poids.
Il faut donner des outils aux communes, un cadre régulatoire, des outils financiers, une assistance technique, juridique, financière de très haut niveau qu'on peut déplorer aujourd'hui, alors que la région dispose d'outils d'administration qui pour moi font un boulot fort, mais qu'on muselle, quoi. Par exemple, il y a 17 intercommunales d'énergie en région wallonne. Pourquoi pas une? On est une toute petite région, 4 millions d'habitants. On n'a pas besoin de 17 tarifs différents. Vous savez que 17 tarifs différents, c'est 500 et quelques administrateurs qu'il faut payer avec des jetons de présence. Et ça, c'est un des problèmes de l'échelon local. C'est malgré tout qu'on assiste encore à une certaine enracinement de certains vieux mécanismes du siècle passé.
En résumé, les obstacles à la mise en place d'une décentralisation efficace sont à chercher tant dans les volontés communales de conserver certains privilèges que dans le manque de supervision de la région. Les projets mis en place pour promouvoir les énergies renouvelables dans les villes relèvent d'une bonne intention. Cependant, ces initiatives sont bien souvent insuffisantes. Elles gagneraient à être accompagnées de réelles contraintes pour ceux qui ne les suivent pas ou qui les suivent mal. C'est pourquoi la vraie révolution devrait se doubler d'une seconde, une révolution des mentalités. We all wanna change the world.